En période de crise économique et sociale, le CNAM est de plus en plus sollicité par des Calédoniens qui ont perdu leur emploi ou qui veulent se reconvertir. La structure de formation professionnelle ouvrait ses portes au grand public ce matin. Le souvenir du bagne à Bouraille, avec ce samedi au Colisée l'inauguration d'une fresque sur l'arrivée de l'Iphigénie en 1864. Des visites guidées au musée de la Seconde Guerre mondiale. Le public peut découvrir ou redécouvrir le site retraçant une page de l'histoire calédonienne à Nouméa. À l'international, la crise au Moyen-Orient semble sur le point de basculer. Le Premier ministre israélien s'est exprimé à l'ONU. L'État hébreu est prêt à répliquer immédiatement à toute frappe de l'Iran, selon Benjamin Netanyahu. Dans le Pacifique, le président fidjien appelle à la fin des manœuvres militaires et des tirs de missiles chinois dans la région. L'actualité sportive du football, avec le PSG qui l'emporte sur Rennes 3 buts à 1 pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Et les Brestois se sont, eux, inclinés à Auxerre 3-0. Du foot aussi en Calédonie. Nouveau match de préparation pour la sélection contre Yengen cet après-midi dans l'optique des éliminatoires au Mondial. Bonjour et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Il y avait du monde ce matin à la matinée portes ouvertes du CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, à Nouméa. Un succès dans un contexte de reconversion sur fond de crise économique, Isabelle Pelletier.
Une quinzaine de personnes étaient présentes dès l'ouverture des portes de la CEST CNAM à 8h, dont une majorité souhaitait assister à la réunion d'information sur les VAE, la validation des acquis de l'expérience. Les formateurs chargés d'accueillir le public ressentent une montée d'inquiétude depuis la dernière réunion le mois dernier. Parmi les personnes venues s'informer cette fois sur les formations proposées, Audrey, esthéticienne depuis plus de 15 ans, est repartie un peu déçue car les métiers de l'artisanat n'entrent pas dans le cadre du CNAM. Côté travail, son activité subit évidemment les conséquences de la crise économique. On écoute Audrey.
Je pensais faire une validation des acquis aussi pour déjà acter tout ce que j'ai appris puisque j'ai qu'un CAP. Et que je voulais évoluer plus vers un bac pro ou BTS. Mais comme il n'y a pas les métiers de l'artisanat au CNAM, je vais devoir sûrement aller ailleurs.
Et là, pour le moment, votre activité, elle se porte bien par les temps qui courent. Il y a des tensions quand même ou...
Ça vivote un petit peu. Là, pour le moment, il n'y a rien d'équilibré, de serein. On fait un peu au jour le jour et on ne peut pas voir sur du long terme ce que ça va donner. C'est beaucoup d'inconnus.
Anne-Sophie, 27 ans, victime collatérale des émeutes, a perdu son emploi. Elle souhaite reprendre ses études.
J'ai eu un bac en ressources humaines et communication. Après, j'ai travaillé dans le commerce et j'ai fait un peu de secrétariat. Je suis venue ici au CNAM pour m'informer sur les formations qu'ils proposent, pour pouvoir peut-être reprendre mes études là où je me suis arrêtée. À l'heure actuelle, je suis à la recherche d'un emploi. J'étais en fin de contrat. Après, normalement, je devais reprendre dans une autre enseigne. Mais vu avec les émeutes et le blocage, comme je suis sur le mandat, du coup, mon patron il m'a dit d'attendre pour l'instant.
Amanda Bao est coordinatrice régionale VAE et directrice adjointe de la CEST CNAM. Elle relève que les personnes actuellement en quête de reconversion ou de complément de formation ne souhaitent pas forcément continuer de s'inscrire dans le paysage calédonien.
On a des personnes qui ont des inquiétudes, qui ont des souhaits d'évolution, qui se posent des questions sans avoir vraiment des perspectives claires ou qui sont pas encore au stade de faire des choix, mais qui se renseignent au cas où. Aujourd'hui, les secteurs porteurs, on va être très clair, hein, ça va être par rapport à la reconstruction, donc tout ce qui est démolition, reconstruction, etc. Tout ce qui est aussi achat, supply chain, puisque ben, logistiquement, on est une île, donc il va falloir refaire venir pas mal de matériel pour la reconstruction. Etc. Aujourd'hui, c'est un peu difficile de parler de métier porteur parce qu'on est tous en observation de ce qui se passe, on est tous en attente de décisions qui vont tomber ou pas. Donc c'est assez difficile parce que je pense qu'il y a aussi parmi notre public des personnes qui ne savent pas encore si elles vont continuer l'aventure calédonienne. Donc les perspectives, c'est pas forcément qu'en Calédonie, c'est aussi pour pouvoir mieux rebondir ailleurs, donc que ça soit métropole ou d'autres pays du monde.
La matinée portes ouvertes de la CEST CNAM, c'était de 8h à 12h ce samedi. La prochaine aura lieu le mois prochain, toujours dans les locaux de la CEST CNAM, située au 30 rue Georges Clémenceau au centre-ville.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu à Bouraille C'est le 99.
Les amateurs d'histoire étaient de sortie aujourd'hui. Plusieurs rendez-vous culturels ce week-end, à commencer par la commémoration de l'arrivée des premiers bagnards en Nouvelle-Calédonie qui se déroulait à Bouraille ce matin, Charlotte Coulson.
Oui, ils débarquaient sur le territoire il y a 160 ans. Les premiers bagnards étaient 250 et aujourd'hui, leurs descendants sont bien plus. De nombreuses familles ont à l'époque trouvé résidence à Bouraille. L'anniversaire de l'arrivée de ces premiers forçats y était célébré aujourd'hui et pour l'occasion, une fresque représentant le navire les ayant transportés, l'Iphigénie, a été inaugurée. Elle décore désormais le mur du cinéma de la ville. Olivier Houdan, adjoint au maire de Bouraille, en charge notamment du patrimoine et des mémoires, était présent pour l'inauguration.
L'idée, c'est de mettre en lumière des événements importants de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. On avait réalisé l'année dernière une fresque sur la Monique à l'occasion de son 70e année de sa disparition. Au centre de chacune de ces commémorations, donc on essaye de mettre en lumière le navire, le véhicule qui est au centre d'une découverte ou d'un événement plus dramatique. Et donc à chaque fois, ce sont des bateaux qui nous permettent de commémorer ces événements. Et donc aujourd'hui, oui, c'est l'Iphigénie, c'est le nom que portait le navire qui a transporté les 250 premiers forçats.
Une cérémonie qui devait initialement se dérouler le 9 mai, date exacte de l'arrivée des premiers forçats. Elle a bien sûr été décalée à aujourd'hui. Sur place, une centaine de personnes ont pu découvrir la fresque. L'émotion se faisait ressentir sur place.
Il y a quoi ? Il y a à peu près une centaine de personnes, ouais. On a au sein de l'équipe municipale une arrière-arrière-petite-fille, une Madame Paillard, qui est arrivée avec l'Iphigénie et qui est installée à Bouraille. Donc c'est vraiment un clin d'œil à l'histoire, puisque voilà, il y a 160 ans, son ancêtre est arrivé par ce bateau, elle est présente aujourd'hui. Toujours une émotion pour les personnes hein, qui revivent un peu ces moments par procuration. C'est toujours poignant, il y a toujours une sensibilité particulière, une intimité qui se fait. Et ça laisse jamais les gens complètement indifférents. Quoi. C'est vraiment une belle réussite. Il y a beaucoup de talents, à chaque fois de beaux clins d'œil qui sont faits à l'histoire de notre pays.
L'inauguration a donc eu lieu à 8h30. Elle a été suivie de la projection du film L'Archipel des Forçats, puis d'une causerie animée par l'historien Louis-José Barbançon. L'exposition Descendants de l'Iphigénie était également à découvrir jusqu'à midi.
À Nouméa, c'est le musée de la Seconde Guerre mondiale qui organise des visites guidées aujourd'hui. Une demi-lune située en plein centre-ville remplit des vestiges de la présence américaine en Nouvelle-Calédonie. Quelle a été la position de la Calédonie durant le conflit ? Que reste-t-il de cette présence sur le territoire entre 1942 et 1946 ? Sur place, Guillaume Hervouette, médiateur culturel à la ville de Nouméa, répondait aux questions des visiteurs venus nombreux. Le reportage de Charlotte Coulson.
Un parti qui vient de se créer, qui est le Parti National Socialiste.
En fait, la présence américaine, on la constate en fait chaque jour. Regardez vos clôtures, en fait, des fois, ce sont des restes d'anciens matériels américains. Des jeeps, on en a toujours vu. Les bulldozers, c'est les premières choses que les Américains aussi ont venues. Des noms de quartiers, le motor pool, le receiving, tout ça, ça date de cette période-là.
Et ils vont attaquer le gouvernement.
C'était l'occasion que les enfants viennent avec nous et qu'on redécouvre ce musée qu'on connaît déjà, mais avec un guide. Prendre le temps, en fait, se laisser guider et puis avoir une information qu'on ne va pas forcément prendre toujours dans le musée.
C'est pour ça qu'on a amené les enfants, parce que l'histoire de leurs grands-parents, leurs grands-parents est très dépendante de la présence américaine, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était pour nous l'occasion de leur présenter cette histoire qu'ils connaissent peu ou pas assez.
En quatrième, on n'a toujours pas travaillé la Seconde Guerre mondiale et savoir le passé de notre histoire, bah, c'est bien aussi, et de savoir comment elle a évolué, la Calédonie.
Notamment, en fait, ils parlent en fait.
Le reportage de Charlotte Coulson, la prochaine visite guidée organisée par la ville de Nouméa se déroulera au musée de la France australe le 3 octobre.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 80% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS se disent rassurés par l'arrivée de la Niña qui devrait amener de la pluie dans les prochaines semaines après des mois de sécheresse. Ils sont 20% à dire que cela ne les rassure pas. Merci pour votre participation et rendez-vous lundi pour une nouvelle question du jour. Dans le reste de l'actualité, le Sénat coutumier prend acte de la déclaration unilatérale de souveraineté des chefferies proclamée le 24 septembre, mais il la qualifie d'événement symbolique et il s'interroge sur sa finalité, Isabelle Pelletier.
Pour le Sénat coutumier qui revendique la légitimité coutumière des 61 districts organisés dans les 8 conseils d'air, la démarche de Inat Nekanaki n'aura de sens que si elle ne remet pas en cause la vision autochtone et le projet de société développé par le Sénat et les conseillers coutumiers. pour le Sénat coutumier, l'heure n'est pas à la surenchère pour savoir qui parle ou non des coutumiers autochtones kanak ou pour présenter des revendications parallèles à connotation politique. Le Sénat qui, dans ce communiqué, appelle à l'unité et à la cohésion des institutions coutumières et des chefferies et plus largement des forces vives du peuple autochtone.
Il est midi passé de 11 minutes, une page de publicité dans ce journal avant de voir l'actualité nationale et dans le monde et la situation au Moyen-Orient au centre des regards de la communauté internationale. À tout de suite.
À vos agendas. Ce week-end, marché de Boulary au Mont-d'Or avec au programme. Dimanche 29 septembre, marché Broussard de 6h à 12h. Vous trouverez toutes les saveurs du terroir calédonien, de l'artisanat culinaire, mais aussi une animation musicale avec Timeless et des jeux pour les enfants. Venez nombreux ce week-end au marché de Boulary.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actu nationale et internationale, c'est la suite d'Info Weekend. On retrouve Michael Juneski.
La tension monte encore d'un cran au Moyen-Orient, alors qu'Israël a mené de nouvelles frappes aériennes sur le quartier général du Hezbollah près de Beyrouth. C'est le chef de la milice chiite qui était visé. Il aurait échappé aux bombes. Des frappes sur des dépôts d'armes ont également été conduites ces dernières heures. L'armée israélienne a annoncé avoir tué le commandant de l'unité des missiles du Hezbollah dans le sud du Liban, ainsi que son adjoint et plusieurs autres chefs du mouvement armé. Le Hezbollah a répliqué avec des roquettes tirées sur des résidences au nord d'Israël. Le Premier ministre israélien s'est lui exprimé à New York devant les Nations Unies. Benjamin Netanyahou dénonce, je cite, « des mensonges et calomnies prononcées contre son pays ». Il s'en est pris à l'Organisation des Nations Unies, devenue, selon lui, une farce méprisante. Il a averti que si l'Iran frappait Israël, l'État hébreu attaquerait immédiatement. Il a également ajouté que le Hamas devait déposer les armes dans la bande de Gaza. On écoute Benjamin Netanyahou.
J'ai un message pour tous les tyrans de Téhéran. Si vous frappez, nous vous frapperons.
There is no place.
Il n'y a aucun endroit en Iran que le long bras d'Israël ne peut atteindre. Et ça, c'est vrai pour tout le Moyen-Orient.
Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien depuis la tribune de l'ONU. Le président américain Joe Biden se dit prêt à ajuster la présence américaine au Moyen-Orient face à la tension croissante. Le chef de la diplomatie russe redoute, lui, une guerre totale. Pendant ce temps, le candidat républicain à la présidentielle américaine Donald Trump a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. À la suite de cet entretien, l'ancien président des États-Unis s'est engagé, je cite, « à résoudre le conflit opposant l'Ukraine et la Russie ». Cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu, a regretté Donald Trump. Il a appelé, je cite encore, à un accord juste pour tout le monde. Le président des îles Fidji a réclamé l'arrêt immédiat des tirs de missiles au-dessus du Pacifique. Il se trouve également à New York. Les détails avec notre correspondant régional Jean-Pierre Zajac.
Ratu Katanivere a profité du discours qu'il a prononcé lors de l'Assemblée générale des Nations Unies pour déclarer que, je le cite, « la culture de la paix est aujourd'hui plus urgente que jamais ». Évoquant le tir par la Chine d'un missile balistique intercontinental à travers le Pacifique, le président fidjien a rappelé que ce qu'il a appelé le continent bleu, je le cite à nouveau, connaît la valeur de la paix, ayant vécu les horreurs de son absence lors des deux guerres mondiales. Nous appelons au respect de notre région et demandons l'arrêt des tirs de missiles à travers l'océan Pacifique, a-t-il insisté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
À la une de l'actualité nationale, cette vive émotion pour les obsèques de Philippines, à Versailles, en région parisienne. Plus de 2000 personnes étaient présentes pour rendre hommage à l'étudiante de 19 ans, violée et tuée dans le bois de Boulogne par un homme d'origine marocaine et sous l'obligation de quitter le territoire français. Écoutez ces témoignages.
C'est quand même important d'être là pour la famille, d'être là aussi pour montrer qu'ils ne sont pas seuls.
On travaille dans le quartier et on était obligés de venir parce que
Bah, voilà, c'est pas anodin, ça peut arriver à tout le monde. Et vraiment, voilà, c'est vraiment très émouvant le monde qu'il y a eu pour Philippines.
C'est vrai que cette semaine, on avait envie de hurler notre colère. Colère, mais en même temps, on est complètement impuissant.
Des cas comme ça, des événements comme ça, il y en a tous les jours, que ce soit des viols, que ce soit des agressions, de la violence ou des meurtres. Vraiment, nous n'en pouvons plus.
Et le nouveau ministre de la Justice, Didier Migaud, s'est exprimé à propos de la mort de la jeune fille.
Vous savez que le garde des Sceaux ne peut pas intervenir dans le cadre d'une procédure individuelle. Ça ne m'empêche pas de ressentir aussi fortement que les citoyens, l'émotion devant une telle situation. C'est une tragédie. Ma dernière fille, elle a l'âge de la victime. Donc vous vous rendez compte que je peux imaginer le drame que ça peut représenter pour la famille. Pour moi, c'est un sentiment d'échec, bien évidemment, quand on est confronté à ce type de situation. C'est évident. Donc comment faire en sorte que ce type de situation ne puisse pas se reproduire? Bon, et ça, ce sera de ma responsabilité avec le ministre de l'Intérieur et l'arbitrage du Premier ministre par rapport à un certain nombre de propositions que nous pourrons lui formuler.
Didier Migaud, le ministre de la Justice. Et noté par ailleurs que des portraits de Philippines affichés dans plusieurs universités métropolitaines ont été arrachés par des militants de gauche. Au chapitre politique, le Modem organise ses universités d'été. Un rendez-vous qui se déroule en Bretagne. Le président du parti a réaffirmé son soutien au gouvernement de Michel Barnier en évoquant les crises que traverse actuellement la métropole. On écoute François Bayrou.
Notre pays, comme d'autres pays européens, mais notre pays au moins autant, est menacé. D'abord pour des questions de finances publiques, crise du financement des retraites, crise du financement de la sécurité sociale, crise des désordres sociaux et sociétaux. Et on pense évidemment à cette jeune fille dont les obsèques avaient lieu aujourd'hui, Philippines, étudiante à Paris et qui a été victime d'un prédateur qui était identifié, condamné et au QTF. Tout ça crée autour de notre pays un climat d'incertitude. Et tout ça présente ou nous oblige à une exigence, à des exigences tout à fait inédites.
François Bayrou, lors de son discours aux universités d'été du Modem qui se déroule donc ce week-end dans le Morbihan. En bref, de nouveaux ministres intègrent le gouvernement de Michel Barnier. La députée Horizon Charlotte Parmentier-Lecoq sera déléguée aux personnes en situation de handicap et le député républicain Jean-Louis Thériault a été nommé ministre en charge des anciens combattants. Le nouvel exécutif compte désormais 41 ministres. Il faudra prendre des mesures responsables même si elles ne sont pas toujours populaire, a notamment déclaré le Premier ministre Michel Barnier aux membres de son gouvernement lors du séminaire qui se déroule à Matignon. La déclaration de politique générale est prévue mardi soir pour nous. Et puis en déplacement dans le Bas-Rhin, la ministre de la Transition écologique a quant à elle évoqué l'avenir des centrales à charbon. Agnès Pannier-Runacher promet d'être très attentive.
Je vais être très vigilante, évidemment, sur ces sujets-là. L'engagement que nous avions pris, nous, au niveau État, c'était une transformation industrielle de ces centrales à charbon pour continuer à donner un travail de qualité et en lien avec le domaine de l'énergie. C'était ça la feuille de route. Elle a été fixée aux deux opérateurs de ces centrales, d'un côté Gazelle Énergie, de l'autre côté EDF.
Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique. Il est midi passé de 20 minutes. Une dernière page de publicité avant de voir tout le sport.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Jusqu'au vendredi 18 octobre, gagnez un séjour au Sheraton Deva. Un cadeau d'une valeur de 153 000 francs. Logez 3 nuits en bungalow traditionnel, petit déjeuner inclus pour 2 personnes. Envoyez chance au 3146. Tirage au sort vendredi 18 octobre à 14h, 148 francs le SMS. Profitez des vacances scolaires pour vous détendre au Sheraton des Vins. Le resort vous accueille 7 jours sur 7 dans ses suites avec cuisine équipée à tout petit prix. Toutes les infos et actus sur les pages Facebook et Insta de l'hôtel. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Info Week-end avec le sport. Et avant de retrouver Mickaël Juneski, on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et à la une de l'actu sport du football, avec la sixième journée de Ligue 1, le PSG a dominé Rennes 3 buts à 1. Barcola a inscrit un doublé dans cette rencontre. Une victoire rassurante qui conforte la place de leader de Paris et qui donne surtout de la confiance aux Parisiens avant de retrouver Arsenal en Ligue des Champions la semaine prochaine. De son côté, la JOCR s'est reprise en battant Brest 3-0 en match d'ouverture. Les Auxerrois restaient sur 4 défaites d'affilée alors que les Bretons préparent aussi leur prochain match de Ligue des champions. Ce sera mercredi en Autriche. Le coach de Brest, Éric Roy, ne mâche pas ses mots pour les joueurs qui avaient déjà la tête au choc contre Salzbourg.
S'ils avaient la tête à mardi, il n'y en a pas beaucoup qui joueront du coup. Il faut être bon à tous les matchs si tu veux espérer postuler dans le 11 de départ, quel que soit le match. Donc voilà, mais en tous les cas, nous, on ne fait pas de distinction entre les compétitions.
À la suite de cette sixième journée de Ligue 1, Toulouse accueillera Lyon ce soir. Le FC Nantes fera face à Saint-Étienne. Angers retrouvera Reims. Et Strasbourg croisera le fer demain matin avec l'Olympique de Marseille. Du tennis, et ce, zéro pointé pour les Français qui étaient engagés au tournoi de Pékin la nuit dernière. Dans le tableau féminin, pour le deuxième tour, Diane Parry a été balayée par l'américaine Jessica Pegula, 6-1-7-6. Clara Burel a été éliminée par une autre américaine, Coco Gauff, 7-5-6-3. Chez les messieurs, défaite d'Arthur Rinderknecht contre l'espagnol Bautista Agut, de Giovanni Mpetcherik-Pericard contre Carlos Alcaraz et de Gaël Monfils face au russe Daniil Medvedev, 6-3-6-4. Medvedev qui fera face au dernier tricolore en lice, Adrian Manarino, la nuit prochaine. Ça se passe mieux pour les tricolores qui ont choisi l'ATP 500 de Tokyo au Japon. Hugo Humbert a battu l'américain Nakashima 6-3-6-2. Arthur Fils s'est qualifié lui aussi pour le troisième tour après l'abandon de l'italien Berrettini. Les sports mécaniques. En MotoGP, le rendez-vous du week-end, c'est en Indonésie. Et l'italien Enea Bastianini a dominé les essais libres. Le pilote Ducati a devancé le leader du championnat du monde, l'espagnol Jorge Martin. Le français Fabio Quartararo passe une nouvelle fois directement en Q2 avec le sixième temps de référence. Le pilote Yamaha espère continuer d'enchaîner les bonnes performances sur le tracé indonésien.
Le plus important, c'est qu'on s'est senti très bien sur le rythme comme sur le time attack. Je pense que les conditions seront un petit peu mieux demain, mais comme je l'ai dit, le plus important, c'était de se qualifier en Q2 dès aujourd'hui.
Johan Zarco, l'autre français, s'est classé 11e. Qualification et sprint race à venir ce soir. La course à suivre demain soir. Départ à 18h, heure de Nouméa. Et puis en rallye, le championnat du monde WRC fait étape au Chili. Le gallois Elfyn Evans est en tête du classement à l'issue des 5 premières spéciales. Sébastien Ogier, le français, a été victime d'une crevaison alors qu'il était en tête du classement. Il reste encore 11 spéciales à courir sur cette épreuve ce week-end.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Alifou, c'est le 102.5.
Le sport en Calédonie, du football avec 2 matchs amicaux ce samedi pour les sélections au stade Nouma Delhaye. Déjà le 4e match amical pour les joueurs de Johan Sidaner qui affronteront Yengen Sport à 13h pour la préparation aux éliminatoires du mondial. On écoute le sélectionneur de l'équipe de Nouvelle-Calédonie.
Ça porte ses fruits parce que les garçons travaillent vraiment correctement et du coup ça porte ses fruits parce qu'on sent l'équipe monter en puissance. C'était surtout de retrouver un niveau correct sur le plan athlétique. C'est chose faite puisqu'on travaille depuis début juillet et on sent que sur ce plan-là, ça porte ses fruits. Mais il y avait aussi d'autres aspects, notamment cette unité, cette cohésion à retrouver. Et on sent que là aussi, on est sur la bonne voie. Remettre tout le monde au travail, remettre tout le monde à niveau. Et sur ce 5e match, ce sera à nouveau un bon test face face à l'équipe de Yingen.
Johan Sidaner, le coach de la sélection A. Je rappelle que le match se jouera à huis clos cet après-midi. Il sera suivi d'une autre rencontre amicale à 15h entre la sélection des moins de 20 ans et la S-Wetch. La sélection A reste pour le moment sur 3 victoires face à Tiga, Magenta et Horizon Sport. Et parmi les événements du week-end, il y a également du tennis de table avec les championnats territoriaux de double. Après une longue pause forcée, la Ligue calédonienne a repris ses activités pour organiser cette première compétition de l'année. Les championnats territoriaux de double avec 3 tableaux au programme qui ont débuté ce matin. Le double dame, le double messieurs et le double mixte. Ça se passe à la salle Jean Doyon de Motorpool à Nouméa.